Et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, pourquoi les femmes ne croient pas en elles? C'est une petite voix insidieuse qui distille souvent le doute. Et si je n'y arrivais pas? Et un sentiment d'imposture. Je ne suis pas à ma place, y compris pour des femmes dont la réussite est indéniable. Michelle Obama, elle-même, n'a-t-elle pas reconnu avoir longtemps douté de ses compétences? Alors pourquoi les femmes se demandent plus souvent que les hommes si elles sont à la hauteur de ce que la vie exige d'elle? Quels sont les mécanismes de la confiance en soi? Nous allons en parler avec nos invités. Et quant à vous, les voisines, appelez-nous si vous vous posez parfois, souvent, des questions sur votre valeur, sur vos capacités dans votre vie professionnelle ou personnelle. Nos invités, à travers leurs expériences, vont aussi donner des conseils. Et ces conseils sont d'ailleurs aussi souvent utiles aux hommes qui manqueraient de confiance en eux parce qu'ils existent aussi, il ne faut pas les exclure du sujet. Je vous présente nos invités, donc Elisabeth Cadoche, journaliste, et Anne de Montarlot, psychothérapeute à Londres. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous êtes à Londres. Bonjour. Et vous publiez toutes les deux « Le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles » aux éditions Les Arènes. Également en ligne avec nous, Aude Mangone, bonjour.
Bonjour.
Aude Mangone, vous êtes en direct de Dakar. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante, chercheure à l'université Charanta Diop de Dakar, l'UCAD. Vous avez publié « Femmes noires francophones », une réflexion sur le patriarcat et le racisme au 20e et au 21e siècle chez Kala Herman Édition. Et vous travaillez sur les identités africaines et afro-descendantes et puis les identités numériques. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est pas toujours bon, pas toujours bon pour le moral des femmes, hein, Instagram. Les fameux mécanismes impitoyables de la comparaison. Vous avez grandi au Gabon, vous vivez maintenant entre l'Espagne et le Sénégal, et évidemment vos analyses sur la condition des femmes se fondent aussi sur vos différentes existences. Voilà. Et bien sûr, les voisines, les voisins vous donnent la parole, surtout les voisines, 33 7 64 45 51 41. Un message de Diderot qui est à Yaoundé au Cameroun nous dit aujourd'hui, même avec l'émergence du sujet féminin dans plusieurs domaines, beaucoup restent réticentes, complexées et ont peur de prendre des initiatives et de s'affirmer. Elles sont encore hantées par le complexe d'infériorité. Réponse de Didine qui est à Douala, ça c'est pas faux, on se met trop de pression et la société encourage cela en demandant aux femmes de toujours plus faire leurs preuves. Cela me révolte énormément. Et puis il y a aussi un message d'une voisine qui est à Madagascar, Maminiana, qui nous dit que plusieurs facteurs empêchent les femmes de croire en elles, notamment les critiques négatives de l'entourage. Ces critiques, physiques et morales, les empêchent d'avancer. Allez, maintenant on a envie de discuter de vive voix avec vous au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Elisabeth Cadoche, Anne de Montarlot, j'ai envie de nous rappeler cette phrase de Françoise Giroud qui disait au début des années 80 « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente ». Eh bien, depuis 40 ans, on a quand même nommé plein de femmes incompétentes, mais peut-être pas autant que d'hommes incompétents. Et pourtant, c'est vrai que les hommes continuent d'avoir une incroyable confiance en leur capacité par rapport aux femmes. On le constate toutes, on n'est pas dans le stéréotype finalement, Elisabeth Cadoche.
Non, c'est une réalité, ça serait une assertion, comment dire, bien cynique que d'affirmer que les femmes manquent de confiance si c'était faux. En fait, le problème a trois origines, hein, si on veut reparler de ça. La première origine, c'est une origine historique. Nous sommes le produit de l'histoire avec un grand H, du patriarcat, de la domination masculine. Et donc, on a intégré des stéréotypes, des clichés que nous-mêmes, on reproduit. Il y a également une origine sociétale, les injonctions sociétales. Et en tant que femme, on est vraiment, vraiment les victimes de ça, plus que les hommes. ne serait-ce que le corps des femmes. Le corps des femmes, c'est la plus grande cible marketing de notre époque. Et on a des injonctions, on nous demande d'être belle, d'être jeune, d'avoir un corps mince, musclé, mais aussi d'être des mères, d'avoir des enfants, etc.
Et d'être performante au travail.
Et d'être performante au travail, bien sûr. Et en plus, ça, c'est sans compter les injonctions contradictoires. Si au restaurant, vous mangez une petite salade, on va dire que vous êtes anorexique. Mais si vous prenez un plat et si vous avez l'outrecuidance de commander un dessert, on va vous dire, non mais dis donc, ma chérie, elle est bourrée, etc. Donc ça, c'est aussi pour les injonctions et pour la société. Effectivement, il y a les critiques. Il y a le regard des autres. Et enfin, le manque de confiance s'ancre dans le terreau fertile de l'enfance, où nous avons, nous avons bâti des croyances limitantes, des croyances fausses, pour peu qu'on ait eu une sœur plus jolie, un frère plus intelligent, etc. Qu'on nous ait dit des choses qui nous aient marquées, des petites phrases assassines comme ça. Parce que le langage, on le verra peut-être plus tard, c'est très important aussi. Donc voilà, ces trois origines combinées vont faire que les femmes, elles continuent à véhiculer et à intégrer ces stéréotypes et à les reproduire
malgré des réalités indéniables. Si on prend un pays comme la France, il y a de nombreux pays en Europe qui sont dans la même situation, les femmes sont plus diplômées maintenant et moins au chômage que les hommes. Anne de Montarlot.
Oui, mais non, absolument. Mais je voulais aussi rajouter par rapport à ce qu'a expliqué Elisabeth sur le fait que les hommes et les femmes, à comparaison égale de capacité, de poste, les hommes restent dans une optique, si vous voulez, où ils sont survalorisés. Et ça démarre, c'est ce qu'on explique dans le livre, un peu à l'école, c'est-à-dire qu'un petit garçon ou un élève étudiant.
Enfin, je précise quand même que les filles sont de meilleures élèves à tous les niveaux de la scolarité et qu'elles sont d'ailleurs largement favorisées maintenant par le corps enseignant qui est très féminisé. Et le problème à l'heure actuelle, c'est plutôt l'échec scolaire des garçons. Hein. Donc, quand même, il faut remettre les progrès à leur place.
Alors... Oui, mais tout à fait. Mais là où après ça perdure, c'est que par exemple, un garçon va, quand il va échouer, il va avoir une mauvaise note, il va attribuer ça à l'extérieur, alors qu'une femme, elle va intérioriser ça, elle va dire que c'est de sa faute. Elle va pas attribuer ça de façon externe, mais plutôt interne. Et ça, ça dévalorise énormément et ça retire la confiance. C'est-à-dire qu'un petit garçon, il va dire, bon, bah, le test était trop difficile, le prof est nul, XY. Alors que la petite fille, elle va le prendre personnellement. Et ça commence comme ça.
Là, vous citez des exemples de la vie concrète, mais comment ça se construit finalement, la confiance en soi? Il y a différents stades?
Oui, bah, la confiance en soi, c'est quand même essentiellement le fruit de la construction parentale, du regard parental et du parcours scolaire. Mais ça démarre là, c'est-à-dire que quand on a un regard parental inconditionnel, d'amour inconditionnel, ce que Carl Rogers appelle le regard positif inconditionnel, l'enfant est dans un terreau où il peut s'épanouir dans son unicité.
Et donc ça commence par l'affirmation de soi, c'est-à-dire que l'enfant peut d'abord parler en tant que personne, que ça soit une fille ou un garçon d'ailleurs.
Exactement, où il est ce qui est dramatique pour la construction de la confiance et surtout de l'estime de soi, parce que d'abord il y a l'estime de soi, c'est-à-dire l'amour que l'on peut se porter. Ça peut être ébranlé énormément si l'on reçoit des critiques dures ou une insécurité affective. Hein, c'est toute la théorie de...
Et c'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi?
L'estime de soi, c'est l'amour qu'on se porte, c'est l'estime que l'on se porte. La confiance, c'est plus...
C'est je vais réussir.
Je vais réussir, je suis capable. Mais d'abord, il faut avoir un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. Et si on n'a pas été aimé ou autorisé à être, ça va être beaucoup plus confus, ça va être beaucoup plus difficile.
Aude Mangone, je vous entendais rire tout à l'heure par rapport à l'exemple d'Elisabeth Kadosh, pour les femmes à qui on reproche tout, une salade comme un plat trop copieux dans un restaurant. Vous avez grandi comme unique fille d'une fratrie de cinq au Gabon, hein, vous êtes gabonaise, vous avez un père enseignant qui est extrêmement exigeant. Quelle pression sociale vous avez subie liée à votre condition de fille? Parce que votre père, il vous dit quand même, tu dois être irréprochable parce que tu es une fille.
Tout à fait. En fait, la pression, elle est finalement intériorisée parce que lorsqu'on grandit, il y a des phrases vis-à-vis des gens qui comptent pour nous et qui ont un impact sur notre façon d'être, en fin de compte. Cela veut dire que, ayant grandi dans un espace de rigueur et ayant écouté aussi et me servant des expériences de mes tantes, de ma mère, j'ai compris très tôt que, en tant que femme, je devais faire toujours mieux, en fait. Et donc, il y a toujours ce complexe du perfectionnisme, en fait, de toujours vouloir faire mieux que tout le monde. La preuve, finalement, c'est que de mes cinq frères, je m'inclus, en fait, moi et de mes quatre frères, je suis la personne, en guillemets, la plus diplômée. J'ai dû aller faire un doctorat parce que je voulais absolument me prouver à moi que je pouvais faire mieux que les hommes. Et aussi prouver à ma mère qu'évidemment, elle n'a pas pu étudier parce qu'elle est tombée enceinte très jeune, que je pouvais faire mieux que ce qu'elle avait pu. Et finalement aussi, c'est que tous les jours, étant donné que je travaille à l'université dans un espace très masculinisé, parce que plus on entre dans des espaces où le pouvoir monte et davantage, l'espace masculinise. Et donc, très tôt aussi, vous vous rendez compte que vous devez vous battre et que la rigueur que vous imposez va être une sorte de baromètre permanent parce que lorsque vous êtes une femme, malheureusement, vous devez toujours faire plus. On jauge vos compétences à tout moment par des petits pics, des petits commentaires qui sont de nature aussi à vous repositionner au sein de la société. Moi, ce que j'ai
fait... À vous repositionner en tant que femme, finalement.
En tant que femme.
Et non pas être humain.
Et en tant qu'individu, finalement, parce qu'on ne peut ne pas se positionner en tant que femme lorsque, par défaut, on se retrouve dans une réunion où vous êtes en minorité écrasante, par exemple. Vous êtes obligé de savoir et d'inclure qu'en fait, quand vous prenez la parole, vous ne prenez plus la parole qu'en tant que vous-même, mais aussi en tant que, malheureusement, en tant que femme. C'est la même chose lorsque je me retrouve dans un colloque où je suis, par accident, la seule femme universitaire et africaine, tous ces trois éléments que je n'ai pas assumés, mais que l'on me fait assumer, m'imposent une rigueur, en fait, où je représente par défaut un continent et que, voilà, où les gens vont peut-être confirmer des thèses qui sont basées à prendre sur des clichés et des stéréotypes.
Odo Mangone, vous racontez un épisode très intéressant dans votre livre qui est très autobiographique pour ce premier tome. Vous avez été scolarisée au Gabon et en cours de sport, vous vous retrouvez à courir aux côtés d'un garçon puisque le prof vous met en binôme et vous êtes avec un garçon.
Exactement.
Vous avez un 100 mètres et contre toute attente, vous gagnez contre le garçon. Personne ne vous félicite et on va moquer le garçon qui a perdu devant une fille. Comment se construit la confiance dans ce cas à partir de ça ?
Alors justement, lorsqu'on est encore adolescente et qu'on est dans une construction de l'identité sociale et qu'on se rend compte qu'on est femme finalement et que l'on n'envisage pas sur vous, on pronostique pas sur vous, d'abord, c'est le questionnement parce qu'on se sent même mal en fait. À ce moment-là, je me sentais mal parce que j'ai brisé un tabou en fait et j'ai humilié entre guillemets celui que je considérais être un favori naturel. Mais c'est aussi un questionnement profond parce qu'on se dit alors, je viens de briser un mythe et c'est une satisfaction personnelle. Parce qu'on brise des mythes et lorsqu'on brise des mythes, on brise aussi des plafonds de verre et on ose finalement aller. Et on se rend compte que le plus grand écueil des femmes, c'est aussi l'intériorisation des clichés. Il faut en sorte qu'on n'ose même plus. On se dit à quoi bon en fait, on est d'emblée perdante. Or ce jour-là, le fait symbolique d'avoir gagné cette petite course qui ne représentait peut-être pas beaucoup pour ceux qui étaient avec moi, mais assez suffisamment pour moi, m'a fait donner du courage, en fait, aussi. Et l'estime de moi-même et de me dire, en fait, j'ai toutes les possibilités, j'ai toutes les cartes à ma...
Malgré l'absence de félicitations. Elisabeth Kadosh, il y a beaucoup de femmes qui témoignent dans le livre sur le syndrome d'imposture. Il y a des femmes qui sont surprises par leur succès professionnel.
Oui, d'ailleurs, on parle du syndrome d'imposture et c'est vrai que ça touche davantage les femmes qui réussissent parce qu'elles sont tellement conditionnées. Enfin, là, je peux rebondir peut-être sur ce qu'a dit Odo Mangone par rapport à briser les tabous. Elle n'en revenait peut-être pas elle-même d'avoir gagné et qu'il faut briser les tabous. On a l'impression qu'effectivement, le monde change, etc. Mais si je peux vous donner juste deux, trois chiffres et faits peut-être. Il y a une étude qui a été conduite par des chercheurs de l'Illinois, des universités de l'Illinois, de New York et de Princeton en 2017, donc c'est très récent, et qui a montré que dès l'âge de 6 ans, les petites filles commencent à penser qu'elles sont moins fortes forte et moins brillante que les garçons. Et du coup, elles sont moins enclines à participer à des activités qui, pensent-elles, nécessitent d'être intelligent. Donc, c'est quand même assez édifiant de voir ça aujourd'hui. Donc, le tabou
aux
existe
États-Unis.
Toujours.
Ouais.
Et donc, on a tellement intégré ça qu'on était inférieur, en quelque sorte, ou comme dit de Mangone, qu'on avait un complexe d'infériorité, que finalement, on va parfois s'auto-saboter et ne pas oser. Et ça,
qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposture exactement?
Alors, Anne, ça c'est pour toi.
Anne de Montarlot.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça remet toujours le problème de la place en question. Où est ma place?
Oui.
Est-ce que je suis marginalisée? Est-ce que je suis en minorité? Je suis en sous-représentation? Où est ma place? Ai-je ma place? Puis-je obtenir ma place? Et ça alimente l'imposture et le manque de confiance.
Alors, c'est quoi exactement le sentiment d'imposture?
Alors oui, le sentiment, il y a plusieurs noms, le syndrome, le sentiment, c'est en fait un déficit particulier, très poussé de confiance en soi, où on a une image de soi très négative, et qui fait que, en vérité, on a peur de tout. On a la boule au ventre, on a peur de démasquer, du coup, on a peur d'échouer.
Ça peut être une femme qui réussit. Ça peut être une femme qui réussit, mais qui dit « Oh là là, j'ai encore trompé tout le monde sans être démasquée.
Exactement.
Je m'en suis sortie pour cette fois. » Alors qu'en fait, elle réussit.
Exactement, parce qu'en fait, ça privilégie des croyances sur soi, notamment qu'on n'est pas assez, qu'on usurpe notre place. Et du coup, on n'arrive pas à intérioriser nos réussites. Donc, dans l'exemple que vous avez donné, on réussit une cadre supérieure, etc. Elle va quand même, malgré tout, douter d'elle-même. Parce que elle va se dévaloriser, elle va surévaluer les autres. Donc, il y a tout un groupe de pensées très, très limitantes qui se sont mises en place dans la construction de la personne. Et renflouées, alimentées par la société, parce que c'est un problème systémique. C'est ce que l'on a mis dans le livre, le poids de l'histoire, le poids des injonctions
paradoxales,
sociales. Et ce triptyque un petit peu pervers continue à paralyser ou à faire perdurer ce sentiment de boule au ventre, de peur, vraiment de peur d'être démasqué et de ne pas afficher ses succès. Et donc ça bloque. On s'auto-sabote, on procrastine, ou alors on est dans le surtravail.
Odo Mangone, vous nous disiez, vous êtes en direct de Dakar, vous êtes universitaire à l'UQAD, vous nous disiez, en tant que femme universitaire africaine, avec cette identité-là, c'est pas forcément simple. Est-ce que cette injonction paradoxale d'être à la fois la femme parfaite, mais en même temps peut-être de pas trop réussir pour ne pas faire peur aux autres, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes intériorisent une peur de la réussite parfois?
Oui, bien sûr, c'est très fréquent. Moi, j'ai des amis qui étaient profs et qui me disaient qu'elles ne voulaient pas s'acheter une voiture, elles ne voulaient pas se construire une maison parce qu'elles n'auraient pas leur de mari. Sinon, les hommes auront peur d'elles. Et c'est très choquant d'arriver à un stade où on n'est même pas sûr d'avoir un mari, on n'est même pas sûr de savoir qui on va rencontrer, mais de se bloquer personnellement sur le plan professionnel et de se dire « non, je ne peux pas construire une maison parce que… » Là, je parle d'un contexte africain, je ne sais pas comment ça se passe en France. Je parle d'un contexte gabonais où j'échange avec des amis et qui me disent… mon mari étant décédé, c'est une parenthèse, et qui me disent « peut-être que tu n'as pas de mari parce que tu fais peur aux hommes ». Et justement, j'ai eu ces anecdotes-là. Un homme, un jour, qui m'a dit que je me comportais comme quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une personne dans sa vie. Et quand je lui pose la question de savoir amicalement qu'est-ce qui lui fait dire que je n'aurais besoin de personne dans ma vie, il me dit tout, en fait. Vous vous rendez compte que la tyrannie structurelle n'a parfois pas d'excuses ni de raisons valables. Il me dit tout. Quand on te voit, tu projettes une extrême confiance en toi qui fait que, du coup, d'emblée, on se dit bah, « tu es tellement bien dans ta vie que tu n'aurais peut-être pas besoin de quelqu'un ». En fait, c'est pour vous dire que c'est un vice qui est développé et qui vous fait jeter l'opprobre sur vous. Ça veut dire qu'un homme peut être complexé vis-à-vis de vous, peut-être parce qu'il estime qu'une relation obéirait à une soumission de la femme, et qui ne comprend alors pas que vous soyez simplement bien dans vos bottes, en fait, et que vous n'allez pas être gêné de votre succès, parce que c'est un travail qui vous a coûté beaucoup de réflexion, beaucoup de sacrifices personnels. Moi, pour écrire un article, je dois quand même lire beaucoup de livres, et ça me prend du temps. Et j'ai le droit d'être heureuse, par exemple, d'avoir écrit un livre, parce que ça m'a valu du temps et des efforts intellectuels. Et il n'y a pas de raison que on m'accuse de réussir juste parce que je ne serai donc plus une femme qu'on pourrait épouser. Par exemple, ce sont des réalités que beaucoup de femmes en Afrique vivent. Aye. La pression qui est faite aux intellectuels, parce que lorsqu'on est intellectuel, on serait une mauvaise femme ou la typique femme qui n'accepterait pas tout et n'importe quoi, par exemple.
Elisabeth Kadosh, c'est quand même intéressant ce que dit Odom Ongone, c'est-à-dire que finalement, avoir affiché une trop grande confiance et réussite, ça ne fait pas partie des attentes de la société. On attend plutôt qu'une femme ne soit pas si sûre d'elle.
Alors, je pense que ça, le paradigme est en train de changer parce qu'on a de plus en plus de rôles modèles femmes. On a des femmes fortes, des femmes puissantes, comme dirait Léa Salamé, peut-être.
Surtout Marine Diaye au départ.
Voilà, oui, Marine Diaye, bien sûr, avec ses trois femmes puissantes. Et en fait, maintenant, les petites filles, peut-être qu'elles peuvent se permettre de dégager cette confiance. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui s'auto-sabotent parce que c'est pas leur place, pensent-elles. Anne parlait de place tout à l'heure. Et par exemple, quand vous voyez les femmes qui cherchent du travail, un homme qui va répondre à une petite annonce, s'il y a 5 prérequis, par exemple, et qu'il en maîtrise que 4, ben il va y aller et puis le 5e sera le défi du job. Alors qu'une femme, on demande de maîtriser, je ne sais pas, tel logiciel, d'être bilingue norvégien, d'avoir fait telles études, d'avoir tel profil de poste. Si, par exemple, elle maîtrise 4,5, mais qu'elle n'est pas tout à fait bilingue norvégien, ben elle ne va pas y aller. C'est-à-dire qu'elle s'interdit elle-même. Et ce n'est pas tant pour l'image qu'elle va dégager que pour une question de place.
Oui, un auto-sabotage, une auto-censure. Ouais. Vous restez avec nous, 7 milliards de voisins. La parole est évidemment aux voisines aujourd'hui. Pourquoi les femmes ne croient pas autant en elles par rapport aux hommes? Appelez-nous si vous vous posez parfois ou souvent des questions sur votre valeur, sur vos capacités dans votre vie professionnelle ou personnelle, ou si vous vous reconnaissez dans ce qu'on a décrit comme le syndrome de l'imposture. Mais est-ce que je mérite vraiment ma place? Allez, appelez-nous surtout tout de suite au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve dans quelques instants.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde. Je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Sous mon sang là, regarde.
C'était le coup de gueule de Clara Luciani qui porte dans son sein une grenade. Pourquoi pas? Et vous nous appelez les voisines, puisqu'on parle de la confiance en soi. Pourquoi est-elle moins grande par rapport aux hommes? Ça n'est pas un cliché, c'est une indéniable réalité. Vous le démontrez, vous le réexpliquez dans votre livre, Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, le syndrome d'imposture, pourquoi les femmes manquent tant de confiance en elles. Et puis on est aussi en ligne avec Odom Angonnet qui publie Femmes noires francophones et qui nous raconte à la lumière de son parcours aussi ses réflexions sur la question. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille Aminata qui est à Abidjan. Bonjour Aminata, soyez la bienvenue.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins et les voisines.
Alors vous avez une trentaine d'années je crois Aminata?
Oui effectivement.
Ouais. Et alors vous avez dit au Standard que pour vous, votre problème de confiance en vous, ça vient vraiment du cercle familial et à l'école.
Effectivement, au niveau du cercle familial, il faut dire que déjà, il y avait des difficultés de prendre la parole au sein de la famille.
Ouais.
On avait des parents qui étaient quand même assez difficiles. Et quand il y a une difficulté, on s'indexe en fait, ou on indexe une capacité qu'on n'a pas.
Mm-hmm.
Et là, on commence à ne plus avoir confiance en soi sur ce qu'on pourrait faire.
Mais est-ce que vous aviez le sentiment que ça vous était davantage destiné, ça, par rapport à vos frères?
Oui, bien sûr, parce que il y a eu des situations où vraiment ça m'a marqué et ça m'a porté quand même un coup sur mon développement personnel.
À quoi vous pensez, Aminata?
Par exemple, quand j'étais petite, j'aurais bien voulu faire du sport. Et voilà, mes parents ont refusé en fait que je pratique ce sport-là.
Mm.
Et ça m'est resté jusqu'à présent vraiment comme un mal-être en fait, parce que je sens que j'aurais été capable de pouvoir me surpasser.
Oui, dans quel sport?
C'était le karaté.
Oui, et pourquoi? Parce que c'était pas pour les filles?
Je pense que peut-être dans l'idée des parents, c'était celui-là, parce que mes frères avaient été inscrits. Ah. Et par contre, moi, je n'ai pas eu le droit, en fait.
Ouais, un sport de combat. Vous aviez envie de vous construire à travers ce sport de combat. Du coup, comment, malgré tout, vous avez réussi à construire une forme de confiance en vous? Ou est-ce que vous conservez aujourd'hui des difficultés? Alors, vous n'avez pas de difficulté à prendre la parole en direct à la radio, hein, ça, je vous rassure. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Aminata, à 30 ans?
À 30 ans, je me sens bien, c'est vrai, pas à 100%, mais je dirais à 80% parce que il y a 2 ans maintenant, j'ai décidé en fait de vivre heureuse.
Ouais.
Voilà, parce que je me dis, la confiance en soi part de là. On a un mal-être en fait dans notre vécu.
Mm.
Et c'est un point vraiment essentiel qui nous ramène toujours à nous poser la question, est-ce qu'on est meilleur face à telle chose? Est-ce qu'on est mieux face à telle personne? Est-ce qu'on s'aime soi-même? Parce que aussi il y a ce volet là où quand on s'aime pas soi-même, on peut pas avoir confiance en soi. Et j'ai décidé en fait de m'aimer tel que je suis, d'aimer la vie. Et au fur et à mesure maintenant, je pense qu'à 80%, j'ai pris confiance en moi.
Comme un homme, finalement.
Quand même, on ne pouvait pas dire dépasser. Même, j'ai quand même dépassé un homme parce que je me suis forgé un mental en fait d'acier. Mais c'est pas l'homme en fait avec qui je suis ou bien avec qui je suis qui est en quelque sorte mon adversaire.
Ah, vous parlez d'adversaire. On reste dans le registre du sport. Merci en tout cas. Merci de nous avoir appelé, Aminata. Vous êtes nombreuses à souhaiter vous exprimer. Peut-être à de Montarlot un mot ou Elisabeth Cadoche, parce que vous parlez du sport hein, dans votre livre. C'est un truc important pour se bâtir une confiance en soi.
Absolument.
Oui.
Ouais. Anne de Montarlot.
Oui, non, mais oui, c'est merci de votre témoignage parce que ça illustre très bien le fait que quand on a un regard parental justement de cet ordre-là qui un petit peu inhibe des désirs que l'on a et qui dévalorise, ça reste en nous et c'est très important. Vous avez parlé en disant moi j'ai décidé d'être heureuse, un petit peu comme Voltaire nous dit, et c'est très bien, mais c'est très important également de revisiter tous ces messages qui sont très lourds dans la construction identitaire et qui sont justement limitants. Donc, parce que ce n'est pas qui vous êtes, c'est le regard parental. Donc, c'est très important de faire le tri.
Oui, et si je pouvais ajouter quelque chose sur le karaté, vous vouliez faire du sport et vous vouliez faire du karaté. Là, on est typiquement dans le stéréotype de genre. Et il y a une marque de protection féminine qui a mené une campagne depuis plusieurs années qu'on cite dans le livre. Et ils ont appelé ça « courir comme une fille ». Donc, ils prennent des petites filles, enfin, ils font venir des petites filles dans un gymnase qui ont 7, 8, 9 ans. Et on leur dit « vas-y, cours comme une fille ». Ben, elles courent normalement. Et aux garçons et aux femmes plus âgées, quand on dit cours comme une fille, elle court avec d'une manière très affectée, n'importe comment. Et ça, c'est typique. Donc, faire du karaté, on est complètement dans le stéréotype de genre. Et vous n'avez peut-être pas pu, Aminata, faire du karaté, mais en tout cas, ça a été formidable de faire ce travail sur vous-même et de vous en être sortie. Bravo.
Ouais. Odo Mangone, je pense que sur la question des règles, hein, puisque là, vous faisiez allusion à cette publicité pour des protections hygiéniques, Odo Mangone, les règles, c'est très très tôt finalement chez les petites filles ou les jeunes filles, une stigmatisation en tant que femme d'une incapacité qui va vous poursuivre sur certains continents, dans certaines cultures.
Je pense, en fait, après je crois que la question des règles est taboue presque dans toutes les sociétés, oui, hein, oui. Finalement, parce que il a fallu beaucoup d'années de combat pour qu'on se rende compte que les règles n'étaient pas du tout bleues dans les pubs, et pourtant ce n'était pas forcément associé, voilà, à la couleur naturelle. Non, mais je voulais rebondir sur l'intervention de la
d'Aminata. Ouais.
D'Aminata, voilà, je pense que, enfin, pour trouver des petites solutions comme ça, des astuces et tuyaux. Moi, ce que j'ai fait sur moi, c'était déjà un travail de déconstruction de ces clichés-là qui sont imposés aux sociétés, c'est de se dire qu'est-ce que je veux être comme femme et finalement comme femme noire. En fait, dans un chapitre, d'ailleurs, le dernier chapitre du livre, je dis je ne suis pas la femme noire. Mmh. Donc, je ne suis pas le cliché qui a été imposé, qui a été construit à mon insu, sans moi et sans mon avis. Mmh. Donc, je fais un travail de déconstruction permanente parce que ce travail-là te poursuit toute ta vie, malheureusement. Oui. Mmh. Déjà, il faut être bienveillante vis-à-vis de soi et ne pas se dire et ne pas s'imposer cette rigueur-là. Si je devais revenir en arrière, évidemment, j'assume tout ce que je suis. Je ne serai peut-être pas trop dure vis-à-vis de moi-même parce que je sais que je suis trop dure vis-à-vis de moi-même. Et comme j'ai une fille qui appartient à deux mondes, dont le père est espagnol, la mère gabonaise, et donc qui a une partie finalement africaine parce qu'elle vit au Sénégal, j'essaie de faire, d'apporter un autre discours vis-à-vis de ce que je commence à voir comme étant des clichés qu'elle me partage en fait parce qu'elle converse beaucoup avec moi. Je fais tout pour qu'il y ait une conversation. Mmh. Déjà, donc, il faudrait être très bienveillante vis-à-vis de soi-même. Évidemment, la pratique de l'activité sportive est très intéressante. Moi-même, je pratique une activité sportive régulière pour moi-même parce que c'est très important pour l'estime de soi.
Qu'est-ce que vous faites comme sport, Odom? Vous courez sur la corniche?
Je vais en salle.
Ah, vous allez en salle.
Je vais en salle.
Parce que sur la corniche à Dakar, on voit de plus en plus de filles qui courent, enfin de femmes, mais c'est vrai que c'est quand même une majorité écrasante de garçons qui courent le long de la mer à Dakar.
Je vais en salle aussi parce que on est parfois aussi envahi lorsqu'on travaille en plein air, envahi par des dragueurs, on va dire. Et donc, évidemment, il y a toujours ce regard très patriarcal.
Et c'est ça, donc vous cherchez à vous protéger. Elisabeth Cador, juste une toute petite intervention. On donne la parole à d'autres auditrices qui sont nombreuses à intervenir.
Juste pour dire à Odo Mangone, vous dites que vous étiez trop dure avec vous-même et vous dites qu'avec votre fille, vous essayez de parler, de déconstruire tout ça. Et c'est vrai que ça passe souvent, la confiance en soi, par le langage. Alors, le langage par rapport aux autres, d'être plus bienveillante, bien sûr, mais aussi par rapport à soi-même. Vous savez, les petits mots qu'on jette au vent le matin, oh là là, j'ai des cernes, j'ai des valises, je suis trop moche. On devrait être plus indulgente avec nous-mêmes. Voilà.
Oui, on n'entendrait pas tellement un homme dire ce matin, j'ai des cernes, je ne me trouve pas bien. C'est rare d'entendre ça chez un homme. Et c'est vrai aussi, pour revenir au syndrome de l'imposture, que les femmes sont plus exigeantes avec elles-mêmes, voire perfectionnistes. Et d'ailleurs, on les accuse dans le cercle professionnel d'être perfectionnistes, ce qu'on dira beaucoup moins souvent à un homme d'ailleurs.
Mais le perfectionnisme, c'est la première typologie du syndrome d'imposture.
Mais chez un homme, on dira qu'il est professionnel.
Mais oui, ça c'est le double langage, vous savez, en fonction de votre genre. Vous êtes une femme et vous êtes un petit garçon même dans l'enfance et vous êtes turbulent alors qu'une fille, on va dire qu'elle est hystérique.
Oui. Allez, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On accueille Lydia qui est à Kisangani en RDC. Bonjour Lydia.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 22 ans Et vous dites que vous avez perdu l'estime de vous à cause de paroles blessantes de vos parents, Lydia, c'est ça?
Oui, exactement. Le fait est que mes parents sont attachés aux valeurs africaines. Donc, je devais savoir préparer, déjà faire la vaisselle très bien de mon jeune âge. Et le fait est que je n'en étais pas vraiment capable. Déjà à l'âge de 6 ans, 8 ans, 9 ans, même le voisinage savait que je ne savais pas bien faire la vaisselle.
Ouais. C'est-à-dire qu'on vous mettait en situation d'échec, finalement.
Oui, exactement. Et cette façon-là, et la façon dont eux me voyaient, leurs paroles devenaient tellement blessantes. Et moi, j'ai commencé à me définir selon les paroles que j'entendais d'eux. Par exemple, on pouvait me comparer facilement avec ma sœur, qui était capable de faire des choses facilement. Au niveau ménager, par exemple, elle pouvait très bien le faire que moi. Mais aussi, même arriver jusqu'à dire qu'elle est plus jolie que moi.
Oui.
Donc, au niveau déjà corporel, je n'avais pas assez confiance en moi parce que je me disais que si mes parents ne me trouvent pas jolie, parce que je ne suis pas vraiment jolie.
Qu'est-ce que vous avez fait pour regagner l'estime de vous-même, Lydia? Aujourd'hui, vous avez 22 ans. Je sais que vous ne voulez pas tellement dire ce que vous faites dans la vie, mais vous êtes plutôt quelqu'un qui est assez connu dans votre entourage, via les réseaux sociaux notamment. Vous n'avez pas l'air d'une fille qui n'a pas confiance en elle.
Oui, en fait, à 18 ans, j'ai dû quitter la maison familiale. Je suis allée poursuivre mes études à l'étranger. J'ai fait à peu près 3 ans à l'étranger et après 2 ans pardon à l'étranger. Après, je suis revenue au pays, dans la ville là où je suis actuellement. Je me suis retrouvée encore dans une famille où il y avait le même problème et à la fin, je suis partie habiter ailleurs dans le campus. Mais j'ai rencontré une personne, un garçon qui est mon petit ami, qui m'a vraiment aidée à regagner confiance en moi.
Qui vous a valorisé.
Oui, il m'a vraiment valorisé en me montrant d'abord les choses dont j'étais capable de faire.
Merci Lydia de nous avoir appelé. Alors c'est vrai que les femmes, les comparaisons peuvent être à la fois un poison et puis aussi un moteur quand il y a des rôles modèles aussi. Hein. La comparaison n'est pas toujours ce qui vous achève. On peut aussi avoir un but de ressembler à une femme que l'on admire, Elisabeth Kadosh.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, on parlait avant l'émission des réseaux sociaux, d'Instagram notamment. C'est vrai que si vous regardez les photos retouchées des filles avec des super beaux corps et qui sont toujours en train de minauder devant leur petite caméra, vous vous dites « Oh là là, je suis pas à la hauteur par rapport à elles ». Mais ça peut aussi, vous pouvez avoir aussi des rôles modèles, des femmes qui réussissent. Et ça, c'est très galvanisant.
Un message que je vous lis de Jocelyne qui est à l'île Maurice. On salue d'ailleurs nos auditeurs qui nous écoutent dans l'océan Indien et qui dit « Je dis aux filles d'apprendre pour avoir une maison, une voiture, qu'une femme doit savoir ce qu'elle veut. Je ne vois pas ce qu'un homme peut faire et pour moi, au contraire, je me considère meilleure que. » Voilà, ça c'était le message de Jocelyne. On accueille également Eunice. Eunice est en ligne avec nous, enseignante à Abomey-Calavi au Bénin. Bonjour Eunice.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous avez 25 ans et vous dites que vous avez super confiance en vous.
Oui, s'agissant de la confiance en moi, bon, je dirais que j'ai un peu trop confiance en moi.
Ah bon?
Dans ce sens où, oui.
Pourquoi?
Dans ce sens où je me dis, même si personne ne m'aide, j'atteindrai l'objectif que je me suis fixé.
Ouais.
Je ne m'attends pas forcément à me faire aider. Puisque nous sommes dans une société où tout le monde a ses préoccupations et ses objectifs.
D'accord.
Du coup,
chacun pour soi.
Moi-même.
C'est ça. Mais pourquoi vous dites j'ai trop confiance en moi? C'est si vous ne comptez que sur vous-même, bon, bah, finalement, vous êtes une femme forte.
On se revient des espérances de la société, par exemple des concours auxquels vous participez. Vous constatez que dans votre société, les gens ne vous soutiennent pas. Donc au finish, vous devrez tout faire par vous-même et gagner par vous-même. Donc au vu des expériences, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas avoir confiance en moi-même et éviter un peu trop de compter sur les autres. Du coup, cette confiance que j'ai en moi-même, en mes capacités d'affronter tous les défis, me donne de la détermination.
Oui.
qu'on perd cette confiance en soi, ma foi, on ne réussit pas souvent à atteindre ses objectifs. On est plutôt désespéré. Mais... lorsque par malchance, on vous abandonne.
Oui, mais je comprends votre point de vue, Eunice, mais tout de même, hein, vous avez une vision un peu pessimiste hein, quand même de l'entourage, de la société. Si vous ne comptez jamais que sur vous-même, non?
Non, je compte sur les autres, mais je ne laisse pas mes objectifs sur les autres.
Oui.
Je peux inviter les autres à m'aider, par exemple, pour mon projet, il y a des gens qui m'aident. Nous avons une équipe et majoritairement, ce sont des hommes. Ouais. Mais vous savez que tout le monde est occupé. On n'a pas toujours le temps pour s'occuper des objectifs des autres, des projets des autres. Donc, même si vous faites un peu confiance aux autres, il faudrait vous dire que tout repose sur votre confiance en soi.
Bon, on conserve votre témoignage, Eunice. Hein. On va en faire une ligne de conduite aussi. Merci en tout cas, bravo Eunice. Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, peut-être pour conclure nos discussions sur la confiance en soi, si vous aviez un conseil à mémoriser vraiment pour cette émission, pour les femmes qui nous écoutent, qui reçoivent des injonctions, beaucoup de pression et qui ne savent pas forcément bien comment s'en sortir.
Anne de Montarlot. Tu veux commencer, Anne ?
Oui, je peux. Bah, moi, ce qui me semble essentiel, et on va toucher là-dessus, c'est le fait de déconstruire, d'être vraiment en pleine conscience des messages et des croyances que l'on peut avoir dans la tête. Parce que ça limite énormément. Et si on n'en a pas confiance, on ne peut pas se donner la possibilité de changer et d'avoir d'autres comportements. Donc c'est essentiel de faire face à ces pensées qu'on va appeler négatives et de les déconstruire. Vraiment et en parallèle de ça, de faire un petit peu une liste objective, j'ai envie de dire, de ce que l'on a accompli.
Oui.
Pour ne pas se laisser endormir ou arrêter par tous ces messages de l'enfance et de la société.
Se recentrer sur la réalité, finalement, hein, des femmes. Aude Mangone, si vous aviez quelques conseils.
Alors, les conseils, avoir des modèles, c'est très important de se construire entouré de personnes bienveillantes et surtout des modèles. Et si on peut en avoir au sein de sa famille, parce que parfois, on s'en va tellement loin chercher des modèles alors qu'on a des modèles autour de nous. Moi, j'ai grandi dans un environnement où finalement, sont mes grands-mères qui deviennent mes modèles. Et pourtant, on aurait pensé que le féminisme était exogène et qu'il n'avait aucune réalité avec l'Afrique, mais avec mes grands-mères, j'ai bien vu que c'était possible d'avoir de modèles de référence qui me donnaient la force de continuer et d'oser. Être bienveillante vis-à-vis de soi, comme je l'ai dit, pratiquer une activité sportive, faire un travail sur soi-même, créer un réseau de sororité, c'est très important.
Voilà.
D'avoir des gens qui pensent comme nous, qui nous donnent du courage et avec qui on peut échanger pour pouvoir grandir et aller de l'avant sans que ces gens-là ne vous jugent. En fait, c'est très important de le faire. Mmh. Et finalement aussi avoir des alliés, avoir des amis. Moi, j'ai la chance d'avoir des garçons, enfin, des hommes qui sont mes frères et d'avoir des amis majoritairement masculins. Donc, c'est aussi important d'aller vers ces gens-là et de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, pour qu'il y ait un discours, il y ait un dialogue permanent pour qu'on se découvre finalement. Parce que parfois, c'est la peur de l'inconnu qui fait que souvent... on jette l'opprobre sur celui qu'on ne connaît pas assez. Voilà.
Et c'est vrai qu'au vu de votre récit autobiographique, Aude Mangone, on peut renvoyer la question aux femmes qui nous écoutent du continent africain. Comment est-ce que le doute peut assaillir les femmes d'un continent où elles surmontent autant d'obstacles, hein, finalement ? Elles auraient toutes les raisons de se rassurer sur leur capacité. Peut-être, Elisabeth Cadoche, encore les tout derniers conseils ?
Oui, moi, j'aurais dit un petit peu la même chose que Ogone. C'est-à-dire de bien s'entourer, de s'entourer de personnes qui vous aiment, qui sont de vrais amis, et d'une sœur, enfin de personnes qui vont vous porter et pas vous écraser. Et puis peut-être il y a une phrase que je peux dire du magnifique roman de Tiffany McDaniel qui s'appelle Betty, qui est très lacrymogène par ailleurs, mais il y a une phrase que j'ai adorée, elle dit « Nous avons trop d'ennemis dans la vie pour en faire nous-mêmes partie ». Et je pense que ça c'est une grande sagesse, il faut commencer par s'aimer soi, quoi.
Et puis je terminerai avec le message de Marie-Jeanne qui est à Ouagadougou, qui a 30 ans. J'ai alterné des phases de manque de confiance depuis toujours à cause de remarques jusqu'à en arriver à une tentative de suicide. C'est la lecture et l'écriture qui m'ont sauvée. J'ai compris qui j'étais. Et puis il y a aussi cette très belle citation du Dalai Lama que vous inscrivez dans votre livre, Elisabeth Kadosh et Anne de Montarlot. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Alors voilà, on souhaite à toutes d'apprendre à lire le ciel et leur destin. Merci à vous, les voisines, pour vos très nombreux appels. Demain, 7 milliards de voisins, eh ben, ça tombe bien. On parlera du bonheur. Une de nos auditrices disait « J'ai tout simplement appris à être heureuse ». C'est une valeur qui n'est pas inutile de questionner en ces temps de pandémie. Et d'ailleurs, les pays ou les entreprises qui permettent le droit au bonheur sont désormais bien identifiés. Alors envoyez-nous la liste de ces petits riens qui participent à fabriquer le bonheur, même en ces temps d'incertitude. On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Et puis avant de se quitter, une mélodie et des mots qui nous font du bien. Woman par le groupe féminin Cat Power et Lana Del Rey. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles. Thoughts running in circles. I walk around all day long, following me. The doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. The doctor said I was not my past. He said I was finally free. Taking the jump, took the lead.
De voisins, c'est fini.